Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui s'ouvre à toutes les problématiques de notre société, mais toujours sous le prisme du savoir-faire français. Justement ce matin, nous allons nous intéresser à un sujet qui nous touche tous autant que nous sommes, le gaspillage alimentaire, véritable fléau des sociétés de consommation comme la nôtre. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, chaque année, la France gaspille près de 10 millions de tonnes de produits alimentaires. Les restaurants sont à eux seuls responsables de 14% de ce gaspillage alimentaire. Heureusement, il est possible de changer nos comportements en revoyant nos habitudes alimentaires, certes, mais également à travers de belles initiatives, car en France, il y a de jeunes entrepreneurs français qui luttent contre cela en innovant, en proposant des idées ingénieuses, facilement accessibles à tous et parfois tellement simples à mettre en place. C'est ce que nous allons vous faire découvrir. Et c'est parti pour une première innovation dans ce domaine.
Sud Radio, c'est ça la France.
Comment lutter contre le gaspillage alimentaire? C'est notre thématique du jour dans C'est ça la France. L'objectif des pouvoirs publics d'ici 2025 est de diminuer de 50% le gaspillage alimentaire. Et pour cela, eh bien, tous les acteurs sont impliqués. Les agriculteurs, les industriels, les enseignes de grande distribution et nous, consommateurs. Alors justement, en parlant d'implication, au dernier salon de l'agriculture, Agreen Startup, qui est le premier concours de start-up en agriculture, qui est géré par la Chambre d'agriculture, a donné le prix coup de cœur alimentation à deux jeunes porteurs de projets, des futurs entrepreneurs, qui ont une très très belle idée pour réduire le gaspillage alimentaire. Bonjour Hugo Laudren.
Bonjour.
Alors Laudren ou Laudrin?
Laudrin.
Laudrin.
Hugo
Laudrin. Vous êtes cofondateur de La Boucle. Racontez-nous ce beau projet qui a été distingué par un prix d'encouragement au dernier salon de l'agriculture.
En fait, ça part d'une idée assez simple avec mon ami, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on jetait énormément de produits à la base au niveau du consommateur. Et après, en discutant un petit peu avec les agriculteurs, on s'est rendu compte qu'eux-mêmes jetaient beaucoup de leurs produits.
Mais ils ont des invendus, hein. Ouais.
Exactement. Et c'est un petit peu dommage au niveau pour eux du chiffre d'affaires. Donc on a commencé à essayer de se pencher sur la question, quelle solution apporter à ça. Et on en est arrivé au stade où on s'est dit que pourquoi pas faire de la production alimentaire, donc de la transformation à partir justement de ces invendus.
Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire comme transformation alimentaire?
Alors comme c'est des fruits et légumes, c'est assez simple. Pour finir, on a le scope est super large. Et nous, on est parti sur les sorbets aux légumes. Et après, on pourra facilement diversifier.
Mais ça, c'est original, les sorbets aux légumes.
Ouais, exactement. C'est ce qui nous a valu, je pense, le prix coup de cœur. Lors du salon international de l'agriculture.
En fait, c'est une façon d'accommoder des restes, quoi. Ce qu'on pourrait faire aussi à la maison, avec au lieu de jeter justement les restes, essayer de trouver des idées innovantes. Mais alors, quand on parle de sorbets de légumes, c'est-à-dire, ça serait quoi, des sorbets à base de potimarron, de haricots verts, de...
Alors, n'étant pas cuisinier de base, je laisserai cette partie-là à un cuisinier. Mais on connaît déjà un petit peu les sorbets de légumes dans certains grands restaurants ou restaurants un petit peu originaux, où on fait aisément des sorbets de concombres, de poivrons ou de patates douces qui ont déjà un petit côté sucré. Mais le champ des possibles est assez large.
Alors comme j'expliquais, c'est un projet, donc il y a tout à mettre en place. Vous avez votre business model à également essayer de structurer. Alors vous pensez vous organiser comment? C'est-à-dire que l'idée c'est de faire travailler un laboratoire pour élaborer vos recettes, faire appel à des restaurateurs. Comment vous pensez mettre ça en place?
Alors pour l'instant, on termine nos études, respectivement avec Justin, qui est lui aussi l'autre cofondateur avec moi. Et très rapidement, on va commencer à mettre le pied à l'étrier, vu qu'on va être incubé à côté de Lille. Et pour ce qui est de la production, on va faire appel aux ESAT, donc les, anciennement les CAT, parce que premièrement, on n'a aucune connaissance en termes alimentaires, donc tout ce qui est normes hygiéniques et ce qui encadre un petit peu la réglementation qui peut encadrer la production alimentaire. Et aussi parce que c'est un souhait de notre part d'essayer d'avoir un petit peu cet aspect social en faisant travailler ce type d'entreprise.
Vous avez quoi comme formation tous les deux? Vous suivez quoi comme cours?
On est dans deux écoles différentes, mais on fait tous les deux la même chose, un master entrepreneuriat innovation dans des écoles de commerce.
Alors finalement, on peut dire que vous avez été surpris par votre prix. En fait, ça a mis un petit coup d'accélérateur à ce projet.
Ouais, c'était pas prévu du tout. Moi, j'avais été invité à annoncer mon idée dans mon école. Et c'est vrai que ça avait plu, un de mes professeurs m'avait dit de m'inscrire à Green Startup. Et pour finir, on a été un petit peu emporté dans... par l'engouement. Et donc c'est bien, ça accélère les choses. Puis on a surtout pu se rendre compte qu'il y avait une véritable attente autour de notre projet. Et ça valide un petit peu nos hypothèses.
Il semblerait que les particuliers, les Français, gaspillent près de 50 kilos de nourriture par an. Comment vous visez, d'ailleurs, quel type de clientèle? Les restaurants, les particuliers? Vous avez une petite idée ou ça encore c'est en chantier?
Alors nous, on viserait les produits seraient à destination justement des consommateurs finaux, donc vous et moi, en fonction des personnes, là où elles peuvent faire leur shopping. Et pour ce qui est du gaspillage alimentaire chez les particuliers, moi j'avais été un petit peu choqué parce que c'est pas du tout dans ma façon d'être. Et effectivement, les statistiques démontrent qu'on a tendance à beaucoup jeter, peut-être trop rapidement, et peut-être parce qu'on suit trop facilement aussi les dates limites de consommation et toutes ces choses-là.
Alors la prochaine étape, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver des sponsors, trouver des investisseurs? Vous en êtes où là?
Alors là, moi je termine mes études dans 5 semaines et je vais justement commencer à travailler dard sur tout le projet. Donc le but va être d'essayer de regrouper un maximum de coopératives agricoles pour se rapprocher d'elles, essayer de comprendre un petit peu mieux le marché, ensuite se rapprocher des CAT et puis après commencer à discuter pour les canaux de distribution avec certaines épiceries spécialisées ou ce genre d'enseignes qui seraient intéressées justement par notre projet. Donc la partie finance, on attend un petit peu de valider tout notre projet, faire un premier test.
Mais vous pensez passer par un crowdfunding, qui est un grand classique en général quand les startups se lancent? En plus, c'est un projet fédérateur.
Ouais, tout à fait. C'est une volonté d'Augustin avec qui je suis, qui justement trouve qu'on a un projet qui s'inscrit vraiment bien dans le crowdfunding.
Et en plus, donc je le disais, vous étiez cofondateur de la boucle, mais la boucle là aussi, c'est un nom provisoire. Vous allez rechanger tout ça. Donc on peut dire qu'on est vraiment à l'état de projet là.
Exactement. On a pris la boucle pour le concours, en sachant que c'était pas un nom valide, mais comme on a gagné, les gens ont commencé à garder ce nom-là, mais on doit changer parce que sur l'INPI, c'est quelque chose qui est déjà pris. On ne veut pas rentrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Donc là, on pose un petit peu les méninges pour trouver une autre idée. Donc si vous avez une idée, n'hésitez pas.
Eh ben, on peut le soumettre à nos auditeurs. Vous savez qu'à Sud Radio, on aime bien soutenir les jeunes entrepreneurs. Je rappelle que vous avez eu le prix Coup de cœur alimentation au dernier salon de l'agriculture. Donc ce prix est décerné par Agrin Startup, le premier concours de startup en agriculture. Eh bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite et un plein développement dans les années à venir. Encore un grand bravo
beaucoup
à tous les deux.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Laurence Kerjean.
Bonjour.
Alors, vous avez une super idée pour lutter contre le gaspillage au bureau en créant le frigo jaune. Expliquez-nous un petit peu ce concept.
Alors, on a créé le frigo jaune en fait fin 2016 pour s'inscrire en fait dans la nouvelle réglementation RSE des entreprises qui ont l'obligation désormais d'indiquer ce qu'elles font dans leur rapport annuel extra-financier.
Avec la loi Grenelle en fait, 2, c'est ça, hein, depuis le juillet 2016.
Avec la loi Grenelle 2.
Ah, j'entends des petits enfants derrière, vous êtes chez vous là.
Tout à fait, c'est la vie des entrepreneurs aussi.
C'est exactement ça. Alors expliquez-nous.
En fait, avec le frigo jaune, on récupère les invendus du midi de la restauration collective et on les met à disposition gratuitement des employés pour qu'ils puissent repartir avec le soir, soit pour eux, soit pour donner à quelqu'un qui a faim.
C'est un frigo qui a une couleur jaune, d'où le nom frigo jaune, c'est pour qu'on ne puisse pas le louper, c'est ça?
Alors, d'une part, oui, et puis il y a une référence aussi aux pièces jaunes. Et puis le jaune, dans la théorie des couleurs, c'est la couleur du partage et de la joie. Donc ça nous semblait tout à fait approprié.
Alors, c'est un frigo qui est connecté également, donc c'est pas qu'un simple frigo.
Non, tout à fait. Alors, pour l'instant, on n'a pas la version 100% connectée. On est en train de travailler sur l'objet connecté lui-même. Aujourd'hui, en fait, le service qu'on vend, même si on s'appelle le frigo jaune, on vend un fridge as a service, donc un frigo, mais aussi tous les doggy bags qui permettent d'emballer les invendus du midi, l'application qui permet aux prestataires de restauration de se connecter pour dire ce qui est disponible, mais aussi disponible pour les employés pour qu'ils voient ce qui est à dispo dans le frigo, et puis la mesure de l'impact RSE qu'on fournit à l'entreprise tous les trimestres.
C'est ça. Mais là, du coup, le côté connecté, c'est pour prévenir les utilisateurs de l'application dès qu'il y a la possibilité de récupérer quelque chose au frigo jaune.
Alors, il y a les deux, oui, il y a les deux aspects. Il y a la partie, effectivement, pour que les collaborateurs sachent qui est disponible, et il y a la partie aussi qui permet de gérer la responsabilité pour le prestataire de restauration de ce qui est mis dans le frigo, puisqu'on enregistre exactement les détails et l'heure de ce qui est mis à disposition.
Alors, justement, effectivement, on gère, c'est pas un produit comme les autres. Il y a des problèmes de péremption qui ne sont pas les mêmes pour tous les produits. Alors, comment est-ce qu'il est géré, ce frigo ?
Alors aujourd'hui, nous, on a pour parti pris de récupérer tout ce qui est invendu, sauf les produits, ce qu'on va dire, touchy. Donc on ne prendra pas des produits à base de mayonnaise ni de la viande crue.
D'accord, il y a des produits qui sont proscrits.
Oui, il y a des produits qu'on ne récupère pas. Par contre, tout ce qui est les buffets de crudité, les buffets de dessert, les plats chauds qui n'auraient pas été servis, aujourd'hui, c'est donc de la responsabilité du prestataire de restauration de les mettre dans les doggy bags, donc selon ses normes à lui, hein, qu'il respecte, et de les déposer dans le frigo jaune qui est disposé dans l'entreprise à une distance qui est généralement choisie par le prestataire au sein de l'entreprise, mais qui ne sera pas dans la cafétéria.
Et à ce jour, vous avez combien d'entreprises qui ont été séduites par le frigo jaune ?
Alors, d'entreprises séduites, beaucoup. On a plus de 400 demandes d'installation.
Oui.
Par contre, on a aujourd'hui une seule entreprise qui l'a installée, qui est le groupe Au Féminin et Marmiton. Les autres entreprises sont en attente et en négociation, puisque leurs prestataires de restauration se montrent parfois frileux
face
à ce nouveau geste.
Alors justement, est-ce qu'ils n'ont pas peur que les clients consomment moins et qu'ils attendent un petit peu cet effet d'aubaine à la fin de la journée pour récupérer les invendus ? Est-ce que ça fait partie des craintes ou bien c'est juste des règles d'hygiène peut-être à respecter ou
Alors, il y a cette crainte-là que vous évoquez, on l'a eue au départ, mais c'est vrai que c'est assez, c'est pas vraiment le cœur de leur refus. C'est pas ça qui est au cœur de leur refus. D'autant qu'on est en entreprise et que les gens ont quand même une pause bien définie pour aller déjeuner. Et puis que rien ne garantit qu'il va rester ce que les gens aiment à 15h ou 16h.
Oui. C'est à la loterie.
Faut attendre, voilà. Faut attendre 15h ou 16h pour déjeuner. C'est pas toujours évident. Par contre, plus c'est vrai, à leur décharge, la lecture aujourd'hui du principe de précaution dans l'alimentaire est quand même assez précautionneuse. Et donc, même si on sait très bien qu'il n'y a pas de frein réel, aujourd'hui, c'est vraiment une peur de se dire, oh là là, si j'y vais et que jamais il se passe quelque chose, je préfère pas y aller.
Oui, hein, ouais, je vois. Cette crainte, justement, qui est, comme on reste sur des produits qui sont sensibles, il y a toujours cette crainte du scandale sanitaire, c'est ça un petit peu ?
Oui, alors je ne sais pas si c'est tant le scandale sanitaire que le fait qu'on change un petit peu le business model aussi de ces entreprises et
d'accord.
qu'on les oblige à revoir un petit peu la manière dont ils pensent l'économie au quotidien dans leurs entreprises clientes. En termes de risque, nous, on a quand même fait évaluer ça par pas mal de juristes et des spécialistes, notamment de la sécurité alimentaire. On ne peut pas dire qu'on soit particulièrement risqué.
Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous enleviez tous les produits qui étaient justement délicats.
Exactement. Et puis, dans l'entreprise dans laquelle on est installé aujourd'hui depuis 7 mois, on n'a encore jamais eu de rien à signaler. Alors que malgré tous les process qui sont mis en place dans les différents lieux classiques de restauration collective, on voit quand même tous régulièrement qu'il peut arriver des soucis. Hein. Il y a encore eu 300 enfants l'été dernier qui ont été
contaminés.
Donc, voilà, on n'est pas à l'abri. Maintenant, c'est vrai que nous, on s'attaque plutôt à des produits qui sont quand même sans risque. Hein. Typiquement, le litre de carottes râpées ou de concombres non assaisonnés qui sont sur les buffets jusqu'à 14h. Alors, c'est vrai que on nous dit effectivement qu'on n'est pas capable de nous donner la température du kilo de carottes en fin de service. Mais je pense pas qu'on ait beaucoup de morts par intoxication.
Non, je crois pas. Non. Vous prenez pas trop de risques.
Par contre, on a quand même 4 millions de personnes en France qui ne mangent pas à leur faim tous les jours et ce n'est pas forcément des gens qui sont dans la rue. Et ça, on oublie qu'on peut les trouver aussi dans les entreprises ou dans les familles de ces gens-là. Donc nous, c'est là-dessus qu'on espère agir.
C'est une très belle idée. Est-ce que ce concept pourrait être adapté à d'autres types des restaurants classiques, non pas des restaurants d'entreprise et pourquoi pas des supermarchés ?
Alors, des supermarchés, pourquoi pas, mais il y a déjà pas mal de choses qui sont faites puisque nous, on agit principalement sur des produits qui ont été transformés. Donc, il y en a très peu en supermarché. Ce sont plutôt des produits déjà emballés et non transformés. On imagine évidemment, donc là, on a parlé de la restauration collective, mais on a aussi tout ce qui est restauration dans les administrations. Et les écoles notamment, donc on a eu pas mal de demandes de mairies et de départements pour tout ce qui concerne les cantines publiques.
Et vous n'en êtes pas à votre premier essai, puisque vous aviez déjà à l'époque créé Meet the Chef, qui met en relation les cuisiniers et les particuliers pour là encore éviter le gaspillage de la cuisine de chef. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps.
Oui, tout à fait. Mais en fait, j'avais à cœur surtout de travailler dans la tech liée à l'alimentaire. Ouais. Et c'est vrai que quand j'ai regardé ce qui était disponible comme on va dire projet, j'avais pas envie de faire le énième projet de livraison
à domicile. Ouais.
Exactement. Et donc du coup, c'est vrai qu'en regardant les chiffres du gaspillage. Finalement, c'est ça qui. C'est
ouais, ils sont éloquents. Effectivement, 10 millions de tonnes de nourriture gâchées chaque année en France.
En fait, en ayant un impact auprès des entreprises, on se dit qu'on a plus de chances de toucher beaucoup plus de citoyens qui, à terme, pourront revenir sur le geste échange entre eux. C'est-à-dire, une fois qu'on aura fait évoluer un petit peu les mentalités.
C'est une très, très belle initiative et longue vie au frigo jaune. Merci beaucoup, Laurence Kerjean, pour votre témoignage.
Merci à vous.
Au revoir.
Sud Radio, c'est ça la France. Le tourisme des savoir-faire avec Thibaut, le French Trotter.
Bonjour Thibaut.
Bonjour Nathalie.
Alors, je crois que vous êtes intéressé à d'autres formes de gaspillage.
Oui, on a parlé du gaspillage alimentaire, mais malheureusement, le gaspillage existe aussi dans d'autres domaines. Bah, tenez, par exemple, chaque année, ce sont plusieurs tonnes de vêtements et de chaussures qui se retrouvent dans nos poubelles.
C'est vrai.
Et pourtant, il y a une solution simple pour éviter ça, acheter des articles intemporels et durables.
Alors, vous avez un exemple à nous donner ?
Oui, dans ma garde-robe, j'ai une bonne vieille paire de bottes Aigle. Écoutez, elle doit avoir une bonne quinzaine d'années, mais croyez-moi, elle est increvable. Et pourtant, je vous promets qu'à la campagne, elle a écumé pas mal de chemins boueux.
Et en plus, les bottes en caoutchouc, c'est vrai que ça ne se démode pas. Donc, vous allez nous parler de cette belle marque du patrimoine français qui se visite.
Et je précise qu'elle a obtenu le label Origine France Garantie en 2016.
Ouais, qui exige que plus de 50% du prix de revient unitaire soit français. C'est ça. Et que le produit prenne ses caractéristiques essentielles en France.
En France, voilà. Mais la marque, on la doit à un entrepreneur américain qui séjournait en France, monsieur Hiram Hutchinson. Il a créé Aigle il y a 165 ans dans le Loiret. Le brevet du caoutchouc venait juste d'être déposé à ce moment-là. Et il avait flairé qu'il y avait un énorme marché à développer à la campagne pour équiper les agriculteurs français en bottes en caoutchouc. Et donc je suis allé visiter le site de production. Aujourd'hui, il est installé dans une ancienne base militaire américaine, Ingrande sur Vienne. C'est juste à côté de Châtellerault. Et c'est vraiment immense. Alors là-bas, on a 200 mètres caoutchoutiers qui fabriquent plus de 4000 bottes par jour. et toujours à la main, selon un procédé qui restait complètement artisanal.
Alors je vois que vous avez été impressionné par cette entreprise. Alors expliquez-nous, revenons au gaspillage, ce qui nous assure que la botte est durable et qu'elle n'a aucun défaut.
Alors justement, pour chaque botte, il faut un test d'étanchéité. Alors il faut injecter de l'air comprimé à l'intérieur de chaque botte, elles sont plongées dans un réservoir d'eau, et aucune bulle ne doit apparaître. Alors, dans le cas contraire, la botte est mise au rebut ou elle est réparée si c'est possible. Voilà, alors comme ça vous êtes sûr d'avoir un produit sans défaut qui pourra durer, allez, peut-être plusieurs décennies.
Donc le conseil du jour de Thibaut, c'est d'acheter des produits parfois un petit peu plus chers à l'achat, mais qui vont être rentables sur le long terme. Merci beaucoup Thibaut, très belle journée à tous, très bon dimanche et à la semaine prochaine.